Ma vie.
Mon handicap.
Tous les derniers mardis du mois, de 14h à 14h30.
Une émission présentée par Sylvie Burnichon. Ma vie.
Mon handicap.
Bien, bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur Radio Campus pour ma deuxième émission de Ma vie, mon handicap. Et donc aujourd'hui, je reçois Arnaud Le Breton, qui est président de l'association Pas à Pas, donc dans la Pommeraye.
Tous les derniers mardis du mois, de 14h à 14h30,
vous écoutez Ma vie, mon handicap.
Alors, la Pommeraye est située à Mauche-sur-Loire. Bonjour Arnaud Le Breton.
Bonjour Sylvie, content d'être là.
Eh bien écoutez, je suis ravie de vous recevoir. Ben écoutez, je vous laisse d'abord présenter un petit peu plus l'association. C'est cette belle association que vous venez de monter et que justement, je pense qu'il va apporter dans l'avenir, je pense, pas mal de solutions dans les Mauges.
Ben, on l'espère tous en tout cas. Donc, on est une association de parents d'enfants autistes. Donc on a en charge 6 enfants, on a 2 salariés intervenantes qui interviennent auprès des enfants dans leur quotidien tout au long de la semaine, et à la fois dans les milieux scolaires comme à l'association, au local. Donc on a pour but d'essayer de les autonomiser au maximum, de faire en sorte qu'ils puissent avoir un niveau scolaire intéressant et qu'ils puissent pouvoir grandir et s'insérer dans la société comme monsieur tout le monde. Donc on a 2 psychologues qui viennent de Lille qui ont été formés à l'ABA, hein, donc c'est l'analyse appliquée du comportement.
Ouais.
Donc il n'y a qu'une seule école en France, c'est à Lille 3, qui a été créée par Vinca Rivière et qui a été médiatisée par Francis Perrin dans les années 2007-2008. Ils ont fondé une association qui s'appelle Pas à Pas France, qui a été médiatisée par Envoyé Spécial. Le fils de Francis Perrin était pris en charge là-bas. Et nous, on a eu envie de donner cette possibilité aux habitants du Maine-et-Loire à pouvoir bénéficier de toutes ces techniques qui donnent un maximum de chance à nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, dans le département et partout en France, on ne répond pas aux besoins des familles concernées par l'autisme.
Ouais. Donc, voilà. Ouais. Bon, c'est vrai que dans le Maine-et-Loire, c'est vrai qu'on sait tous les deux qu'il y a un manque de moyens alarmant d'ailleurs.
Oui, c'est très alarmant.
Voilà. Mais alors finalement, pour votre association, donc Pas à Pas, je le rappelle, à la Pommeraye, à Mauche-sur-Loire. Alors justement, qu'est-ce qui a été le déclic, justement, le déclic pour monter cette association à la Pommeraye?
Alors le déclic, il est venu de nos enfants, parce que je suis moi-même papa d'un garçon de 18 ans qui est autiste atypique, et la rencontre avec un autre papa de la Pommeraye, qui a un enfant autiste sévère. Donc tous les deux, on s'est retrouvés dans des situations très délicates, avec un manque de moyens, un manque de réponses à nos questions. Et donc on s'est dit, pourquoi pas essayer de créer une association dans le département, comme l'a pu faire Francis Perrin. Et donc avec un troisième papa, on est monté à Lille, les voir. Et on leur a expliqué en disant, voilà, on ne trouve pas de structure, on ne trouve pas de réponse en accompagnement pour nos enfants. Donc, est-ce que vous pouvez nous aider? Et Vinca Rivière, qui est chercheuse et qui a importé en France cette méthodologie ABA, qui vient principalement des États-Unis, qui nous a dit, elle nous a fait confiance en fait. Elle nous a dit, voilà, votre projet m'intéresse. Et je peux peut-être vous aider en vous envoyant des psychologues que j'ai moi-même formés.
D'accord.
Voilà. Pour nous, un soulagement, parce qu'en fait, on s'est dit, on va peut-être pouvoir enfin avoir des réponses à nos questions, comment accompagner un enfant autiste, etc.
Ouais.
Et répondre à nos difficultés, à nos angoisses qu'on avait pu avoir quand nos enfants étaient tout petits, quoi. Donc,
Oui, j'en sais quelque chose aussi. Donc la méthode ABA, en fait, c'est au niveau des apprentissages, des comportements,
Oui, alors en fait, cette méthodologie-là, elle est basée sur le renforcement des bons comportements. C'est-à-dire que le propre de l'autisme, c'est que les enfants ont des troubles importants du comportement, donc ils peuvent avoir des troubles auditifs, des troubles alimentaires, des troubles du sommeil. Ils n'arrivent pas à s'insérer dans un milieu scolaire pour toutes ces raisons. Ah, ils sont très insociables. Et donc, la méthode ABA, c'est de leur apprendre à apprendre, en fait. C'est de dire, eh bien, ça paraît tout bête pour nous, mais par exemple, quelqu'un, un jeune autiste, il ne sait pas tenir une fourchette, il ne sait même pas à quoi ça sert. Donc, on va lui apprendre à manger avec une fourchette, par exemple. Ça va prendre des mois, peut-être. Et cette méthode-là, eh bien, on renforce à chaque fois qu'il utilise bien la fourchette, par exemple. On va lui donner son doudou préféré, on va le renforcer en l'applaudissant. On joue un peu une scène de théâtre autour de lui en disant on renforce tout ce qu'il sait bien faire. Alors ça peut être un renforcement alimentaire par un petit bonbon, des choses comme ça, mais pour l'encourager et lui faire comprendre surtout que ce qu'il a fait là aujourd'hui, c'est très bien. Par contre, si il prend la fourchette, il la balance par terre, là, on va ignorer ce mauvais comportement de façon à ce que lui comprenne que nous, on ne réagit pas à ça et que ça ne lui sert pas, en fait. Donc, le fait de ne pas renforcer les mauvais comportements, donc c'est un peu le problème que nous, parents, on rencontre, parce qu'en fait, on a l'habitude avec nos enfants de les reprendre quand ils font une bêtise, mais là, il ne faut surtout pas réagir. Il faut surtout réagir quand il fait quelque chose de bien. Donc, c'est pareil, moi je prends souvent l'exemple, mon fils, il a appris à regarder la télé, par exemple. Donc, c'est une méthodologie très très précise, c'est-à-dire qu'on pointe. Donc, il ne voulait pas regarder la télé, il en a cassé 4 ou 5. Donc, au début, on lui disait de rester assis sur le canapé à regarder la télé pendant 5 secondes.
Ouais.
Et puis, quand il est arrivé aux 5 secondes, eh bien, on disait « Ouais, super, c'est génial. » Alors après, on passe à 10 secondes, puis 30 secondes, puis 1 minute, puis 5 minutes. Et puis, on peut aller jusqu'à 20 minutes, une demi-heure. Voilà.
Donc,
et avec cette méthode-là, alors ça prend beaucoup de temps.
Ouais.
C'est un programme d'au moins un mois.
C'est assez long.
C'est assez long, mais on arrive à avoir des résultats.
Il y a des résultats.
Assez importants.
C'est le principal.
Voilà, c'est ça. Et toute cette méthode-là, malheureusement, c'est pas reconnu, quoi. Donc, voilà.
Ouais. Mais bon, au fil du temps, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Bon, nous, déjà, en tant que parents, on fait quand même pas mal bouger les choses un peu partout. En étant engagé, c'est sûr. Donc, petit à petit, j'ai bon espoir aussi que la méthode ABA sera reconnue comme pas mal d'autres choses, quoi.
Alors, il faut préciser qu'en 2012, il y a eu la Haute Autorité de Santé a déclaré recommandable toutes les méthodes comportementalistes, dont l'ABA.
Ouais.
Donc, ça a été le début d'une micro-reconnaissance, parce que l'autisme a été confié jusque-là au secteur psychiatrique. Donc les autistes n'ont rien à faire en psychiatrie, parce que c'est pas du tout les soins qui leur conviennent. Il faut simplement... par exemple, pour des enfants qui ne parlent pas, on utilise le PECS. Donc le PECS, c'est quoi? C'est un terme anglais qui définit ces pictures, donc c'est par l'image.
Oui,
pictogrammes,
tout ça, par exemple.
C'est la mise en place de pictogrammes, de photos, qui leur permet de communiquer avec l'extérieur. Donc ça a été... Après, il y a eu d'autres méthodes qui sont venues un petit peu en France, comme le Padovan. Le Padovan aussi, c'est un peu coucouné, un petit peu renforcé, je dirais, le contact avec la personne.
Et puis, basé sur les émotions aussi.
Basé sur les émotions, lui donner envie à l'enfant de communiquer. Ça passe par le donner envie. Donc... plutôt de contraindre comme le fait la psychiatrie aux médicaments, contraindre à l'isolement, etc.
C'est pas approprié du tout. C'est juste gérer les émotions. L'autisme, c'est gérer les émotions finalement.
C'est ça.
Alors, pour votre association, donc je le rappelle, Pas à Pas à la Pommeraye, à Mauche-sur-Loire. L'ARS. Alors l'ARS, on le rappelle, c'est l'Agence régionale de santé. Alors, quel rôle a l'ARS? Qu'est-ce qu'elle peut ou qu'est-ce qu'elle doit apporter, justement, pour une association locale?
Alors l'ARS, elle a pour mission de scolariser déjà les enfants handicapés. Donc il faut savoir qu'en France, on doit avoir 80% des enfants autistes qui ne sont pas scolarisés ou peu scolarisés. C'est camouflé par les structures du type IME, des choses comme ça, qui sont considérées comme des établissements scolaires, alors que ça ne l'est pas vraiment, puisqu'ils ont très très peu de temps scolaire dans ces établissements-là.
Ouais, c'est spécifique.
L'ARS doit prendre en charge tous les soins normalement pour justement accompagner les familles et les enfants autistes tout au long de leur période d'enfant justement, c'est-à-dire jusqu'à 20 ans. Malheureusement aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Haute Autorité de Santé a simplement recommandé les méthodes comportementalistes et n'a pas obligé l'État n'a pas obligé les ARS à prendre simplement les méthodes comportementalistes. Donc du coup, le ministère de la Santé, qui finance les ARS, donne cet argent aux hôpitaux psychiatriques, aux CAMS, et donc au final...
pas vraiment où il faut, quoi.
Exactement. C'est que la cible, on s'est trompé de cible, c'est-à-dire que on a subventionné massivement les hôpitaux psychiatriques alors qu'on devrait plutôt s'orienter vers des solutions alternatives, comme par exemple notre association ou d'autres qui travaillent auprès des familles avec ces méthodes recommandées par la Haute Autorité de Santé, je rappelle. Donc l'ARS devrait financer, sauf que nous, on est considérés comme des libéraux. Nos psychologues, par exemple, qui viennent de Lille en alternance une semaine sur deux pour s'occuper de nos six enfants, elles sont payées en libéral. Donc, elles ne sont pas du tout référencées par l'ARS. Donc, le problème, c'est qu'on ne peut pas toucher d'argent si on n'a pas un agrément qui, comme les IME, par exemple, les institutions qui ont des IME, donc instituts médicaux éducatifs, ces établissements-là sont payés par l'ARS, principalement. Oui. Donc en fait, si vous voulez, nous, on est un petit peu en dehors du circuit. Et l'ARS, on a été les rencontrer à plusieurs reprises. Hein. Depuis 2012, on a été sur Nantes, on a été à Angers, on a formulé des demandes, on avait des vrais projets, et malheureusement, on a eu toujours une fin de non-recevoir parce qu'on n'est pas une association qui gère déjà des établissements. Donc, oui, on n'est pas une association gérante.
Il n'y a pas assez de poids, quoi.
Et donc, on n'a pas d'agrément qui pourrait pérenniser notre action et qui pourrait donner un sens à tout le travail qu'on a pu effectuer depuis 9 ans maintenant et qui pourrait assurer dans l'avenir l'avenir de notre association.
Voilà. Ouais. Bon, c'est pareil, la MDA. La MDA, donc on sait que c'est une administration, enfin au niveau du département bien spécifique. La MDA, je le rappelle, c'est la Maison de l'Autonomie par chez nous sur Angers. Dans certains endroits, on appelle encore ce service MDPH. La MDA, donc c'est un service spécifique pour les personnes handicapées, pour l'instruction des dossiers. Donc, alors justement, la MDA, elle intervient, par exemple, pour pas à pas, elle intervient pour quoi exactement alors ?
Alors, la MDA, eux, ils ont un rôle très précis, c'est-à-dire qu'ils doivent assurer ce qu'on appelle les PCH, hein, les pensions de compensation du handicap, c'est-à-dire que tout ce qu'un enfant handicapé a besoin, ils doivent y répondre. Donc, les parents, les familles touchent une aide, en fait, une aide spécifique au handicap de l'enfant. Donc, en fait, il y a ce que j'appelle un enquêteur qui vient prendre en compte tous les besoins de l'enfant. Et en fonction de ça, ils attribuent une aide supplémentaire financière. Alors, ça peut être un besoin humain. Par exemple, on peut avoir quelqu'un de salarié à la maison pour intervenir au moment des repas, ou pour garder l'enfant pendant que les parents sont au travail, ou des choses comme ça, en dehors des temps scolaires ou des temps d'IME. Et ça, c'est la MDA qui vient donner un plus aux besoins des parents, un plus financier, un apport financier. Après, il y a d'autres fonctions, la MDA. Il donne aussi ce qu'on appelle une notification. Donc une notification, ça veut dire donner l'autorisation à une famille de recruter une AESH maintenant. Donc une aide éducative, la situation de handicap. Mmh. Une aide à l'enfant, situation de handicap. Donc, ça veut dire que, par exemple, un enfant autiste qui a un besoin d'une aide humaine à l'école, c'est la MDA qui donne une notification pour dire « oui, cet enfant-là, il a besoin d'une aide à l'école
ouais. ».
Donc, ils se rendent vers l'éducation nationale qui doit recruter une AESH. Donc, c'est eux qui pilotent un peu, je dirais, le fonctionnement de la famille par rapport au handicap de l'enfant. C'est-à-dire qu'ils peuvent donner aussi des notifications pour faire bénéficier la famille d'un accueil temporaire. Par exemple, si je prends mon cas personnel, mon fils, il a le droit à 90 jours par an de répit. Et donc, il a effectivement une notification qui lui permet de prendre des séjours de répit, dans la mesure du possible, bien évidemment.
Oui.
Parce que là aussi, il y a
quand
beaucoup...
Quand il y a de la place.
Quand il y a de la place.
Voilà.
Ça, c'est le
toujours
cas.
Le même problème.
Et en fait, c'est eux qui déterminent les établissements, qui vont chercher des établissements. C'est eux qui déterminent auprès de la famille, en fonction des besoins de l'enfant et de la famille. Alors nous, on a essayé de se faire agréer par la MDA, un peu comme la DMR l'est aujourd'hui. La DMR donc est reconnue par la MDA et sont directement subventionnées par le département.
Mmh.
Donc nous, on a essayé de créer un peu une association comme ça, en disant, voilà, nous, on pourrait peut-être, au lieu que les familles touchent de la PCH, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, la pension de compensation, eh bien, on pourrait peut-être mutualiser cette PCH et subvenir aux besoins de l'association. Donc là encore, on est hors cadre, ça n'existe pas.
Et, ouais, c'est toujours, ouais.
Et donc on n'a pas pu se faire référencer, on n'a pas pu toucher d'argent. Donc,
au département, d'après ce que j'ai compris un petit peu tout à l'heure, finalement, le département octroie des subventions plus aux associations, au niveau territorial, des associations nationales.
C'est des associations,
pas aux associations locales.
Du type ADMR, des choses comme ça.
Ouais.
Ou alors, ils interviennent personnellement. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on a des enfants qui touchent... Enfin, les familles touchent des PCH. Et avec cette PCH, ça leur permet de payer un peu de nos intervenantes auprès de l'association.
D'accord, ouais.
Voilà.
Mais alors, finalement, donc en ce moment... apporte justement qui finance en attendant justement, parce que il faut aussi, j'imagine, avoir une reconnaissance de l'association pour pour avoir des subventions, des financements.
C'est très difficile. On a aujourd'hui à peu près, on a un budget de 100 000 euros par an pour donc, les familles donnent environ 60% de cette somme pour financer nos interventions auprès des enfants.
Mmh.
On fonctionne comme un établissement privé, en fait. Hein. Donc, après, les 40% qui restent, c'est principalement des dons. C'est de l'événementiel, donc d'autres associations culturelles, sportives... qui font des événements, qui créent des événements dans l'année et qui nous reversent après l'événement de l'argent. En fait, ils créent un événement et ils nous redonnent le bénéfice. Donc, ça n'a pas trop mal fonctionné, on va dire, sauf qu'en 2020, comme ça vous a pas échappé, il y a eu le Covid.
Bah, évidemment, ça a tout retardé.
Et
en
donc,
fait,
tout l'événementiel a été annulé, donc on est en grande... Donc là, je profite du micro pour dire qu'on est en grande difficulté.
Oui.
Et que...
Profitez-en.
On a une épée Damoclès sur la tête en se disant, si on n'arrive pas à trouver d'autres moyens de financement, on va tout simplement s'écrouler, quoi. Parce qu'on ne pourra plus subvenir aux besoins, parce que nous, tout sur les 100 000 euros de budget, on a... on a à peu près 85 000 euros, c'est que du salaire, les salaires, les charges, etc. Après, le reste, c'est vraiment occasionnel, ça représente un tout petit budget où on envoie les enfants, par exemple, visiter un zoo, des choses comme ça, pour des activités. Et puis après, on a tous les frais, téléphone, comme toutes les entreprises, tous les...
Donc, c'est pour ça que, là, en attendant justement qu'il y ait l'agrément, bah, j'espère rapidement d'ailleurs, au niveau de l'ARS, faut que l'événementiel recommence, quoi. Faut lancer.
Oui, mais la machine va être dure à relancer.
Oui, c'est vrai. Ça a beaucoup retardé. C'est vrai, le Covid, faut reconnaître.
Il va y avoir un délai important et pour nous, on n'a pas le temps d'attendre, quoi. Donc, voilà.
Alors,
ça peut être aussi, on a quelques grosses entreprises qui nous aident.
Oui.
Pourquoi ? Parce qu'on est référencé d'utilité publique, donc on peut défiscaliser un don. Par exemple, un particulier qui nous donne 100 euros, eh bien, il retouche 66 euros. En fait, en réalité, ça coûte que 34.
Oui, d'accord.
Voilà, parce qu'on peut défiscaliser, c'est la loi Coluche, donc, qui permet de défiscaliser les dons. Donc, on a quelques donateurs qui profitent de ça en disant « bah moi, je préfère vous donner de l'argent plutôt que de payer des impôts.
Oui.
Donc, moi, ça vient dégrever un peu mes impôts, donc je préfère vous le donner, c'est plus utile que... »
C'est plus utile, oui, c'est vrai. Arnaud Le Breton, alors justement, est-ce que vous avez, en parallèle justement de l'association, un projet d'accueil structuré ? Alors, je pense tout de suite, en milieu rural, à une ferme. Voilà, reprendre une ferme, par exemple, parce que c'est vrai que les enfants, les adolescents autistes, je prends comme exemple aussi, ma fille, c'est vrai qu'elle est autiste aussi. Bon, c'est vrai qu'elle est, complètement épanouie auprès des animaux, et c'est vrai que c'est une très belle thérapie justement pour eux, pour canaliser justement leur frustration des fois, leurs émotions, quoi. Ouais.
Alors, donc, effectivement,
est-ce que vous avez un beau projet comme ça ?
On a un projet, on a plusieurs finalement, parce que on a déjà le souhait de pérenniser, comme je disais, toutes nos actions pour les enfants. Et puis après, pourquoi pas essayer de... Alors, on essaie là en ce moment de voir un petit peu les opportunités qui viennent à nous. Ça serait, par exemple, on a eu pris contact avec Vive 3, où on avait... Il y a les projets d'habitat adapté sur la Pommeraye, etc. Donc, on essaie de travailler avec ça. Je suis allé voir la ferme des Mauges à Rousset, qui déjà son fonctionnement là. Donc pourquoi pas essayer de... Et là, je vais rencontrer bientôt une autre association c'est à Louvernay, en Mayenne, qui fonctionne déjà avec un centre d'hébergement avec quelques personnes autistes et qui ont des petits travaux comme ça extérieurs.
Ce serait de l'accueil permanent.
Donc ça serait plutôt de l'accueil permanent.
Ouais, c'est bien ça.
Pour des jeunes adultes à partir de 18 ans et qu'on puisse justement essayer de leur trouver un avenir malgré leur lourd handicap, parce que ce sont des enfants qui sont très très lourdement handicapés,
en Mayenne.
Même nous à l'association, on a les trois plus anciens, on a quand même des grosses difficultés. Ce sont des gens qui il faut pratiquement être du un pour un tout le temps, donc en fait l'idée, ça serait de, pourquoi pas, de créer un centre d'accueil. Alors là, par contre, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de gens, beaucoup d'investissements. Donc là, je dirais, c'est encore embryonnaire, mais rien n'est perdu. On essaie de pouvoir se projeter un peu dans l'avenir et de s'entourer, en fait, de s'entourer. Justement, c'est pour ça que j'ai été voir la ferme de Mauges, la ferme des Mauges. J'ai été voir également, je vais y aller bientôt à Louvernay pour voir un petit peu comment ils fonctionnent. Et puis, peut-être que avec ces gens-là qui ont déjà une expérience de création, peuvent nous donner un petit peu des tuyaux, des ficelles pour essayer de créer quelque chose proche de chez nous, quoi. Donc voilà.
Ce serait bien, parce que c'est vrai que moi, je pense justement en vous écoutant, On parle régulièrement de plus en plus d'habitat inclusif, de plus en plus d'associations parlent d'habitat inclusif. L'habitat inclusif, quand même, c'est vrai que lors de ma première émission avec Jérôme Luçon, il a beaucoup évoqué justement l'habitat inclusif, et c'est un concept qui ne peut pas correspondre à tous les adultes, les jeunes adultes, par exemple comme nos enfants à nous, parce qu'il faut être quand même assez débrouillard, il faut quand même avoir acquis une certaine autonomie, quoi qu'on en dise, quoi.
Oui, il faut quand même une certaine autonomie que la plupart de nos enfants n'ont pas.
Oui.
Je dis pas que c'est impossible, parce que c'est un peu le rêve de tous les parents d'avoir leur enfant avec un chez-soi. Donc, je dirais que c'est une belle idée. Maintenant, il faut que les moyens suivent. C'est-à-dire que pour arriver à un habitat inclusif pour des autistes sévères, il faut principalement un accompagnement humain important. C'est-à-dire qu'il faut créer une équipe de professionnels formés et puis qui puissent accompagner le petit groupe d'autistes sévères tout au long de leur journée, quoi. C'est du H24, ça veut dire qu'il faut quelqu'un la nuit pour surveiller, il faut des aides-soignantes, par exemple, pour tout ce qui est soins corporels, repas, etc. Il faut organiser aussi l'entretien des locaux, il faut un animateur pour pouvoir proposer des activités.
Des éducateurs peut-être aussi.
Et des éducateurs, bien sûr. Donc ça nécessite tout un groupe de personnes autour, relativement important. Il faut gérer les congés des personnes salariées. C'est une grosse organisation, à mon sens. Qui est nécessaire pour que nos jeunes enfants soient pris en charge de façon et quelque part ça sécurise, en fait. C'est le mot sécurité qui doit être le primordial aujourd'hui, qui doit primer, parce que effectivement les familles doivent être rassurées, et si elles ont toute cette sécurité-là, ça peut fonctionner. Sinon, malheureusement, il faut plutôt s'orienter vers un foyer d'accueil, parce que sinon, on n'aura pas la capacité de pouvoir mettre en place tout ça. Après, ce qui est intéressant, c'est que c'est une nouvelle forme où il y a une certaine liberté des familles qui peuvent intervenir. Donc maintenant, il faut quand même sécuriser et avoir beaucoup de gens à tourner autour. Donc,
d'où l'importance quand même de garder, de demander toujours, d'être dans la demande de lieux structurés.
Oui, bien sûr.
Parce que c'est voilà.
Il faut pas
que c'est au cas par cas, mais
il faut pas que l'habitat inclusif soit la solution de Monsieur Tout le Monde. Mais en fait, c'est
et tout à fait.
C'est un petit peu le problème d'aujourd'hui, c'est-à-dire que l'ARS est très claire, hein. Elle nous l'a dit maintes et maintes fois, c'est qu'on ne créera pas une place de plus. Voilà. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de mettre en milieu ordinaire les personnes handicapées. Très bien, mais il faut que les moyens aillent avec. C'est-à-dire que si on nous dit qu'il y a, par exemple, un habitat adapté avec 6 adultes autistes sévères, et que vous avez 3 personnes à tourner autour, ça ne fonctionnera pas. Donc, il nous faut les moyens qui vont avec, et aujourd'hui, on ne les a pas. Donc, là, c'est très clair, on ne les a pas. C'est exactement la même chose pour l'accueil temporaire. Donc, moi, j'ai mon fils, justement, j'en parlais tout à l'heure, il a une notification 90 jours par an, il en fait même pas 30, 25. Pourquoi ?
C'est pas normal.
Parce qu'il n'y a pas de structure. Alors, la loi, elle est là, mais la loi n'est pas appliquée. Pourquoi elle n'est pas appliquée ? Parce qu'il n'y a pas de structure. Donc on nous dit gentiment, bah oui, vous savez, c'est déjà bien, hein, parce qu'il est déjà pris 25 jours par an. Vous vous rendez compte, il y a des familles, il n'y a rien du tout. Oui, mais c'est pas le problème. En fait, le problème, c'est qu'on applique la loi et on met les moyens qui vont avec. Mais en France, on fait un peu le contraire.
Oui, puis ça bloque toujours au niveau de... Toujours la même chose au niveau de l'ARS, puisque l'ARS est décisionnaire, finalement.
Oui, elle est décisionnaire. Elle a un rôle important à jouer, le département également, comme je disais tout à l'heure. En plus, quand ça passe au-delà des 20 ans, c'est le département qui prend le relais, puisque c'est le département qui est chargé des personnes handicapées adultes.
Ouais.
Donc, c'est eux qui financent la plupart des... des structures. On prend par exemple l'établissement de Brissac. Le département participe très largement au financement de Brissac.
Ouais.
Mais c'est comme tout, y a des restrictions budgétaires, on n'arrive pas à pérenniser tout. Là par exemple, si je vous donne un exemple, en 2018, j'étais monté au créneau pour que mon fils, justement, il ait plus de jours de répit. Et on lui a accordé plus de jours de répit sous la pression, hein, en disant que moi je voulais qu'on applique la loi, tout simplement. C'est pas moi qui l'ai faite, la loi, c'est une loi nationale. Donc,
Bien sûr.
Donc, l'ARS, parce qu'il était dans un état de fragilité important, et pour le garder à la maison, c'était un peu compliqué. Donc, il avait besoin, justement, de pouvoir... nous, on avait besoin, en tant que parents, de souffler, en tout cas. Et on nous a répondu qu'on avait trouvé un renfort, donc il a pu avoir plus de répit, mais c'était sur un temps limité, c'est-à-dire qu'en gros, ils avaient un budget pour 4 mois. Après, c'était terminé, on reprenait exactement de la même façon. Donc en fait, on crée des lois en France, mais on n'est pas capable de les appliquer puisqu'on n'a pas de moyens qui vont avec.
Alors donc, finalement, alors pour finir, Arnaud Le Breton, en tant que, je précise aussi, administrateur depuis une dizaine d'années à Autisme 49.
Oui, c'est ça.
Et moi aussi, je suis fière quand même aussi d'être adhérente à Autisme 49 en tant que maman très engagée, je précise aussi. Alors, en tant qu'administrateur, en tant que papa et en tant que fondateur d'une association locale avec l'intention d'apporter des solutions aux familles, aujourd'hui, sur Radio Campus... quel message d'urgence vous voulez faire passer aux instances administratives ?
Ben, je leur dis...
Vous avez l'occasion, là.
Oui. je leur dis, avec beaucoup d'émotion d'ailleurs, je leur dis au secours, quoi. Voilà.
Oui.
Le mot d'ordre, c'est au secours, aidez-nous. On a besoin d'être soutenus par les administrations, par les institutions. On sait que... c'est pas facile pour eux, je veux pas leur jeter la pierre, je veux pas dire que... voilà, mais on fait du travail. La mairie de Mauche-sur-Loire nous reconnaît aujourd'hui comme indispensable au fonctionnement de la commune.
Oui.
Pourquoi ? Parce qu'on a 4, 5, 6 familles qui sont dans la difficulté et que moi, en tant que bénévole, j'essaie de soutenir à bout de bras comme je peux. Mais c'est une situation qui ne peut pas durer. Donc je leur dis, au secours, aidez-nous, donnez-nous quelques moyens. On ne demande pas la lune, on ne demande pas des millions d'euros, hein, c'est pas ça. Mais qu'ils nous financent au moins une partie de toutes nos actions chaque année, qu'on puisse savoir que dans la sérénité, on peut accueillir les familles et répondre à leurs besoins. C'est tout ce qu'on demande. Donc on n'a pas... on a des professionnels formés, on a des psychologues qui quand même font un travail exceptionnel.
Oui.
Elles viennent de Lille, elles sont séparées parfois de leur famille, etc. Donc elles sont très engagées dans cette cause. Nous, ça fait 10 ans maintenant qu'on se bat comme des lions pour essayer d'être reconnus.
Oui.
Et on n'y arrive pas parce que, pour plein de raisons, parce qu'il y a... il y a toujours cette espèce de querelle entre la psychanalyse, le comportementaliste, etc. Un manque de volonté, tout simplement,
ouais.
Un manque de volonté des institutions. Il y a toute la problématique politique qui fait que tous les 5 ans, on change et qu'on a à chaque fois, on repart à zéro.
Et puis les administrations qui se mettent, qui ne sont pas toujours d'accord. Hein,
et les administrations qui se renvoient à la patate chaude parce que, comme je disais, l'ARS finance un peu, il y a aussi la MDA, il y a tout. Donc, en fin de compte, on dit non, c'est pas moi, c'est eux. Enfin, l'éducation nationale, là par exemple, il y a une nouvelle directive qui dit que les AESH, que je parlais tout à l'heure, ne vont plus être financés par l'éducation nationale pendant les temps de repas. Hein, parce que. Donc maintenant, c'est aux communes de prendre en charge les personnes qui vont travailler avec les enfants autistes pendant les temps de repas. Sauf que là encore, on dévie le problème en disant, éducation nationale, ce budget-là, on le met sur le dos des communes. Donc en fait, c'est ça, c'est cette patate chaude que tout le monde se renvoie. Et au final, on ne fait rien. On fait rien, on gère l'urgence. Et dans l'urgence, parfois, on arrive à avoir un petit crédit de ceci, un petit crédit de cela, mais c'est dérisoire, quoi. Ça ne nous permet pas d'exister sur du long terme.
Donc, c'est bien que là, vous avez lancé votre message, et moi, je confirme. Je vous soutiens. Donc, faut espérer, pour l'association, déjà, que les choses bougent davantage. Et puis, en tout le cas, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation, Arnaud Le Breton, en tous les cas.
C'était avec grand plaisir et grand merci.
Mais moi aussi. Donc, vous êtes toujours en direct sur Radio Campus, la radio des bonnes ondes. Ma prochaine émission aura pour thème la polio. C'est une maladie dont peu de gens parlent, qui est pourtant connue depuis bien des années. Donc j'aurai le plaisir de vous retrouver donc à 11h dans un mois. Et bien en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Prenez soin de vous et bien sûr, restez à l'écoute sur Radio Campus.
Retrouvez Ma vie, mon handicap en podcast sur le www.radiocampusangers.com.